Didier Mauss, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été président de l'Association française de droit constitutionnel, rapporteur général de la Commission des archives constitutionnelles de la Ve République. Vous avez été professeur de droit constitutionnel et de droit parlementaire à la Sorbonne. J'ajoute que vous êtes membre du Parti radical, qui est le plus ancien parti politique français, fondé en 1901. Alors le 49-3, ça fait toujours mauvais effet hein, quand on l'utilise, comme l'a fait Elisabeth Borne cette semaine. C'est synonyme de passage en force. Or, elle va être obligée de l'utiliser plusieurs fois. Hein. Rien que pour ce budget, les Français vont devoir s'habituer.
Les Français vont devoir s'y habituer parce que c'est une procédure normale. C'est une procédure constitutionnelle. Pour comprendre l'article 49 alinéa 3, il faut toujours savoir d'où il vient. Et il vient en réalité des échecs de la 4e République. À la fin de la 4e République, c'est-à-dire 1956-1958, il y avait des situations où l'Assemblée nationale refusait les projets de loi du gouvernement mais ne le renversait pas à une majorité telle qu'on puisse mettre en route une procédure de dissolution. Et en réalité, on a cherché à lier deux éléments importants, c'est-à-dire le vote des projets de loi et la responsabilité du gouvernement. Et derrière la responsabilité du gouvernement, il faut toujours savoir que si celui-ci est renversé, il y a le risque d'une dissolution. Alors, il ne faut pas croire du tout que c'est né comme ça. Je dirais, le 49 alinéa 3, il est dans le projet de révision de la Constitution de Félix Gaillard en janvier 1958, et il traverse, je dirais, tout à fait cette période. Il est repris en juillet 1958 dans le projet de Constitution, et en même temps, on sait que Michel Debré, qui était garde des Sceaux, qui est celui qui a porté la Constitution pour le général de Gaulle, était très réservé sur cet article 49 alinéa 3, contrairement à la légende, mais à l'inverse, ceux qui avaient une vraie expérience du gouvernement, Guy Mollet, Pierre Fimelin par exemple, étaient extrêmement favorables. Alors il ne faut pas croire du tout que c'est né comme ça d'un mauvais cerveau. Alors pourquoi est-ce qu'on l'utilise plusieurs fois? Parce que quand vous l'utilisez en première lecture, ce qui est le cas aujourd'hui par exemple sur le budget ou sur la loi de financement de la sécurité sociale, vous l'utilisez sur les lectures successives, c'est parfaitement normal. Et d'ailleurs, on va s'apercevoir qu'il n'y a pas des motions de censure déposées à chaque fois parce que ça devient lassant et puis il y a un moment où on n'a plus rien à raconter. Hein, voilà.
Donc 6 ou 8 fois à peu près, il faut s'attendre hein, là, rien que pour le budget.
C'est là, il y a la première partie, il y a la totalité, il y a après CMP parce que la CMP ne devrait pas marcher, il va y avoir en dernière lecture, mais je dirais, ça
c'est pas grave.
Ça n'a aucune espèce d'importance. Ça va gonfler les statistiques, on va vous dire, non, en réalité, il y a un seul cas qui est significatif. C'est le premier sur chaque texte. Le reste, c'est de la procédure normale.
Didier Mauss, Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter en 2027. Qu'est-ce que ça change?
Ça change beaucoup de choses. Si vous voulez, le système politique français, depuis pas mal de temps, est organisé autour de l'élection présidentielle. Et encore plus depuis la révision qui nous a fait passer de 7 ans à 5 ans la durée du mandat du président de la République. C'est-à-dire que tout s'organise autour de lui en fonction de l'élection présidentielle suivante, et notamment tout ce qui concerne la vie des partis et des investitures. Or là, pour la première fois, c'est-à-dire on expérimente un président de la République dans son second mandat qui n'a pas une vraie perspective, une impossibilité même, de se représenter. C'est très différent de Chirac qui avait fait un second mandat, quart. Là, on sait très bien qu'en 2027, Emmanuel Macron non seulement ne sera pas candidat, mais ne sera pas le leader d'une formation politique. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Un certain nombre d'hommes et de femmes politiques cherchent à savoir qui sera le vrai leader de leur camp, il y en a plusieurs, pour la prochaine fois, et notamment dans le camp d'Emmanuel Macron. Il a perdu, je crois, le lendemain sa réélection, comme d'ailleurs on le voit souvent aux États-Unis, une force d'attraction sur ses propres amis, sur sa propre majorité. C'est un peu une déliquescence. Alors, il va essayer incontestablement de leur dire « Non, vous avez besoin de moi », etc. Mais il y a quand même une spécificité, c'est que Emmanuel Macron n'est pas le leader d'un parti politique. Il n'y a pas de parti politique macroniste, on a beau dire tout ce qu'on veut. Moi, j'en ai jamais rencontré sur le terrain. J'ai été élu local. Donc, ce n'est pas ce parti qui peut se dire on a besoin d'Emmanuel Macron encore aujourd'hui. Non, on ne sait pas ce qu'il fera. Mais attention, il peut se représenter en 2032. Il n'a pas le droit en 2027, mais il peut se représenter en 2032. Et il a commencé à laisser entendre une petite musique. N'oubliez pas, d'abord que je serai encore très jeune, hein, il aura une cinquantaine d'années. Et donc, en 2032, je serai peut-être encore avec vous. Alors, n'en faites pas trop en dehors de moi.
Oui, ce sera peut-être lui qui donnera les investitures à l'époque, en 2032, hein, pour les futurs députés.
L'avenir n'est inscrit nulle part.
Quand le président ne dispose que d'une majorité relative, comme c'est le cas aujourd'hui, on a l'impression que c'est Matignon qui joue tout à coup le rôle de pivot et s'en trouve renforcé.
Écoutez, Un, c'est la logique du régime parlementaire. Or, la Constitution de 1958, quoi qu'on dise, est un système parlementaire. Car on ne peut pas gouverner sans avoir la confiance de la majorité des députés. Ou du moins, on ne peut pas gouverner sauf si on est renversé par une majorité. Bon, donc, on est dans un régime parlementaire. Alors, c'est vrai que le président de la République nomme le Premier ministre et le gouvernement, qu'il y a dans la Constitution cette phrase que l'on oublie un peu, à l'article 20, « Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation ». C'est une grande nouveauté par rapport à ce qu'on avait connu antérieurement. Bon, je dirais, c'est le gouvernement, avec le président de la République, qui a cette responsabilité fondamentale de la chose publique, de l'action publique pour l'avenir. Alors, c'est normal que dans une situation un peu difficile, ce soit le Premier ministre qui soit à la manœuvre. C'était déjà le cas, par exemple, avec Michel Rocard, en 1988. Il y avait beaucoup de choses autour de lui. Mais rassurez-vous, et on rassure ceux qui nous écoutent, aucune décision importante du Premier ministre n'est prise sans l'accord du président de la République. Et je me rappelle à cet égard une phrase de François Mitterrand du temps où Édith Cresson était premier ministre, on ne disait pas encore première ministre à l'époque. Et François Mitterrand avait dit, quel que soit celui de nous deux qui annonce des mesures, il évoquait à ce moment-là un programme pour les PME-PMI, ce qui n'était pas tout à fait la tasse de thé de François Mitterrand. Donc c'est Édith Cresson qui avait été à la manœuvre. Il dit, soyez rassurés, on ne dit jamais rien sans mon accord.
On fait une pause, Didier Mauss, on se retrouve juste après. Il y a encore d'autres signaux, hein, on va le voir, qui montrent que c'est une nouvelle vie politique qui est en train de s'organiser.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Didier Mauss, qui est un spécialiste du droit constitutionnel, mais aussi du droit parlementaire et, pour résumer, de toute notre vie politique. Alors, on a entendu beaucoup d'invectives entre parlementaires. Hein. Yaël Braun-Pivet, la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale, a dû sanctionner des députés. Le niveau des insultes reste quand même très en dessous de ce qu'on connaissait autrefois sous la 3e ou sous la 4e République. Hein.
Écoutez, moi, je ne sais pas très bien comment on mesure le niveau des insultes. Je veux dire, je n'ai pas un baromètre des insultes. Ce qui est vrai, c'est que l'insulte a toujours fait partie du vocabulaire politique, et notamment du vocabulaire politique de ceux qui sont sur les bordures d'extrême droite ou d'extrême gauche. Quand vous reprenez les dialogues, par exemple, de la 4e République, c'est extraordinaire. Voilà. Quand Guy Mollet disait du Parti communiste, le Parti communiste n'est pas à gauche, mais à l'Est, c'est quand même pas d'une amabilité débordante. Bon, un jour, sur la 3e République, il y a un président du Conseil qui a dit à un membre de la Chambre des députés « Monsieur, vous êtes un gredin ». Bon, voilà, je sais plus quand, mais peu importe. Bon, on n'en est pas tout à fait là. Mais c'est normal, j'allais dire, que lorsque la situation politique se tend, et elle est tendue aujourd'hui, il y ait un discours plus radical, pas au sens du parti radical que vous évoquiez, mais au sens de radicalisation, parce qu'il y a un moment où on est quand même à court d'arguments, et quand on est à court d'arguments raisonnable et fondé, qu'est-ce qu'on cherche à faire ? À détruire l'adversaire. Et pour le détruire, il n'y a pas d'autre solution souvent que de le déconsidérer, et on en vient très vite à l'insulte.
Donc vous reconnaissez que le ton s'est durci, même si on n'arrive pas aux extrémités d'autrefois, le ton s'est durci.
Le ton s'est durci parce que le climat politique s'est durci. J'allais dire, quand vous avez eu les Gilets jaunes, quand vous avez les Insoumis d'un côté, le Rassemblement National de l'autre, qui ne sont pas des partis au langage toujours très châtié, il est normal que le vocabulaire d'expression des femmes et des hommes politiques, notamment de ceux qui sont dans l'hémicycle, monte d'un ton.
Mais Didier Mauss, justement, l'arrivée de ces nombreux élus du Rassemblement National et de la France Insoumise, deux partis qualifiés de populistes, ça inquiétait un certain nombre de commentateurs. Est-ce qu'ils se comportent si différemment des autres élus appartenant à des formations habituées à siéger en nombre à l'Assemblée nationale, aussi bien la France Insoumise que le Rassemblement National ?
Ils ne se comportent pas du tout de la même façon pour l'instant, depuis le mois de juillet, parce qu'ils ne visent pas le même électorat lors des élections suivantes, et qu'ils n'ont pas la même culture politique. Du côté des Insoumis, il y a cette culture que Jean-Luc Mélenchon incarne merveilleusement, d'une certaine manière, c'est-à-dire une culture de révolte, une culture souvent trotskiste, une culture qui consiste à utiliser le mouvement populaire pour faire avancer ses idées. Et c'est une culture que l'on trouve classiquement dans toute la partie la plus à gauche de la gauche française, mais aussi de l'étranger. Le Rassemblement National, c'est différent parce que leurs espoirs de gagner encore un peu plus reposent sur le fait qu'il faut qu'ils rallient la droite modérée. Les électeurs du Front National, on a fait le plein de l'extrême droite. Donc si on veut arriver à en avoir un peu plus, il faut prendre les électeurs de LR, peut-être une partie un jour des électeurs de M. Macron, ça s'appelle je crois Renaissance en ce moment. Et donc il faut être devenir peut-être un petit peu un vieux notable de la Troisième République ou de la Quatrième. D'où la cravate, d'où le complet, d'où un vocabulaire qui est assez raisonnable et d'où l'attitude extraordinairement tutélaire de Marine Le Pen. J'allais dire, le Rassemblement National a la culture de la discipline et du chef. Bon, et on le voit très bien aujourd'hui.
Adrien Quatennens, après avoir reconnu avoir donné une gifle à sa femme, a démissionné de ses fonctions à la France Insoumise, mais reste député, ce qui choque pas mal de gens, dont Aurore Berger, la patronne des députés macronistes. Mais est-ce qu'on peut priver un député de son mandat dans une démocratie ?
Non, on ne peut pas priver un député de son mandat. Le député est élu par le peuple. Il est élu pour nous représenter, pas uniquement les électeurs de sa circonscription, mais il participe à la représentation globale de la nation, et donc on ne peut pas le priver de son mandat, sauf si il était condamné à une peine pénale le privant de ses droits civiques, qu'il n'aurait plus le droit, par exemple, de se présenter, et que cette décision devenue définitive serait sanctionnée par le Conseil constitutionnel qui prononcerait la déchéance du mandat parlementaire. Bon, très honnêtement, vous voyez que la succession d'étapes est compliquée. Non, il y a simplement deux sanctions possibles, mais aucune des deux n'est applicable en l'espèce. Bon, un, c'est que le groupe politique auquel appartient le député lui dise « Écoute, tu vas un petit peu trop loin et on te met en dehors du groupe ». Ça, c'est une décision totalement privée du groupe. Et la deuxième, c'est que s'il tient des propos désobligeant dans l'exercice de son mandat parlementaire qui va un peu trop loin, y compris en termes d'insultes, le bureau de l'Assemblée nationale prononce une sanction, mais qui est une sanction disciplinaire. On le privera d'une partie de son indemnité, on le privera de parole, etc. pendant quelques temps, c'est arrivé, on a eu quelques cas, mais en tout état de cause, personne à l'intérieur de l'Assemblée nationale n'a le pouvoir de lui dire « vous n'êtes plus député ». Non, c'est le peuple qui a ça. Et nous ne sommes pas dans une situation où il y aurait une procédure de responsabilité des députés devant leurs électeurs, ce qu'on appelle le recall en américain. Jean-Luc Mélenchon, à un moment, voulait qu'on l'institue. On ne l'a toujours pas institué. Donc, très honnêtement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un conflit dramatique. C'est un comportement qui, du point de vue moral et éthique, est absolument anormal. Mais c'est un conflit privé, c'est pas un conflit public.
La demande d'exemplarité qui concerne le personnel politique, est-ce que c'est si nouveau qu'on le dit ?
Les scandales, les problèmes d'argent ou autres, font partie de l'histoire de la République. Bon, et de toutes les démocraties, on en a eu partout. Il y a deux types de scandales, ou d'affaires, pour être plus neutre, et ne pas monter moi-même dans les tons un peu forts, qui ont toujours rythmé toutes les démocraties. Un, ce sont les affaires financières. Deux, ce sont les affaires de mœurs. Parce que c'est la nature humaine. Et c'est en réalité quand même le grand avantage de la démocratie, c'est qu'on ne peut pas les cacher. Dans une dictature, si vous avez des situations de ce type, elles sont mises sous le tapis et elles ressortent que 10, 20 ans, 30 ans après, sauf coup d'État. C'est ce qu'on voit par exemple dans certains pays d'Afrique, c'est ce qu'on risque de voir un jour en Chine. De ce point de vue-là, la démocratie est nettement meilleure, en tout cas de mon point de vue, que n'importe quelle dictature.
Mais si on parle si souvent aujourd'hui de violence conjugale, par exemple, c'est quand même lié à la parité qui a contribué à faire changer les règles.
Les règles des relations hommes-femmes dans le milieu politique, comme dans beaucoup d'autres milieux, le milieu artistique, le milieu culturel, peut-être même le milieu de la presse, vous le savez mieux que moi, les règles ont changé. Moi, il y a 50 ans que je m'intéresse à la vie publique, on n'avait absolument pas le même type de relation, ne serait-ce que parce qu'il y avait très très peu de femmes qui avaient cette responsabilité d'élus et de décideurs. Et donc, je me souviens d'un livre qui avait été écrit il y a bien longtemps par Bernard Chenot, qui a été ministre de la Santé du temps du général de Gaulle, et qui, évoquant la constitution de son cabinet, disait « il faut quelqu'un pour s'occuper de la presse », on ne disait pas la communication à la presse, et il disait « il faut si possible que ça soit une femme, jeune, blonde et jolie ».
Oui, on ne pourrait plus le dire aujourd'hui.
On ne pourrait même pas l'écrire, il l'avait écrit.
Merci Didier Mauss. On fait une pause, on se retrouve juste après avec Maurice Gourdeau-Montagne.
Europe 1.
C'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.